Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission donc hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 10 février. Bonjour Martin.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons un sommaire assez simple, voire simpliste.
Oh, simpliste non, je dirais pas ça, mais en effet on va pas parler d'énormément de choses, par contre on va parler un petit peu en profondeur de certaines choses, à savoir les sorties de la semaine principalement, puisque toi tu as eu une interview de Marc Recha qui sort un film aujourd'hui. Moi je vous parlerai rapidement des autres films qu'il faut aller voir ou pas, ce sera les a priori de la semaine. Et puis à l'occasion de la sortie en salle de Lovely Bones, je vais en profiter pour faire un retour sur la filmographie complète de Peter Jackson. Voilà un bonhomme auquel on ne s'est pas encore intéressé dans Cinérama mais qui mérite le détour. Ce sera un gros morceau de cette émission.
Alors effectivement, Marc Recha qui sort un film « C'est ici que je vis » aujourd'hui avait fait une avant-première il y a 15 jours. Au cinéma Diagonal, il était présent, donc notre micro y était aussi. Pas de belle manière hein, d'ailleurs, mais voilà, ce sera un son un peu particulier. Donc il sort « C'est ici que je vis » avec Eduardo Noriega et Sergi Lopez, et puis un tout jeune acteur qui s'appelle Marc Soto. Donc voilà, ce sera en deux parties pour que ce soit un peu moins indigeste. Et puis en toute fin d'émission, il y aura forcément les événements de la semaine. Mais tout de suite, c'est plutôt les a priori.
Ah, quel bon film. Qui a dit ça?
C'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non.
Oh, quel bon film.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Mais quel charme ce film d'époque, hein? Hein? Quel charme.
Et partez pas sans votre dossier de presse.
Les a priori de la semaine, donc un petit survol subjectif et plein de prétentions, des sorties en salle de ce mercredi, des jugements à l'emporte-pièce, des présupposés éhontés et quelques vraies infos quand même sur les films que je n'ai pas encore vus mais que déjà je porte au nu ou je déteste et que vous pourrez aller découvrir à partir d'aujourd'hui. Alors une des sorties les plus intéressantes de ce mercredi, à mon humble avis, c'est ce film de zombies français avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, dans lequel ces comédiens légendaires se font enfin dévorer par des créatures putrides qui les éviscèrent avant de recracher quelques morceaux immangeables. Donc voilà un film d'exploitation comme les Frenchies ne savent plus vraiment les faire et qui devrait contredire l'adage qui veut que les films de genre labellisés « hexagones d'origine contrôlée » sont soit insoutenables comme Martyrs, soit vraiment ratés comme Humains. Voilà, donc ça s'appelle La Horde, et le film est signé par Yannick Dahan et Benjamin Rocher, deux jeunes gars qui n'en veulent, mais qui malheureusement n'ont pas pu embaucher Depardieu ni Deneuve pour les donner en pâture à leurs petits monstres. Donc ce film, je vous en reparlerai sans doute très bientôt. Ensuite, pour passer à quelque chose de plus sérieux, mais qui devrait vous tenir aussi bien éveillé qu'une horde de zombies du 9-3, vous pourrez aller découvrir 12. Le nouveau film de Nikita Mikhalkov, qui sort également aujourd'hui dans les salles françaises. Alors 12 a été tourné en 2007, et cette nouvelle adaptation de la pièce 12 hommes en colère, de Reginald Rose, est paraît-il une belle réussite. Alors ça va constituer un véritable contrepoint au film de Sidney Lumet, qui avait lui aussi adapté cette pièce de théâtre, parce qu'il propose une transposition de la même histoire, mais dans un contexte fondamentalement différent, à savoir la Russie, avec en toile de fond les guerres de Tchétchénie. Donc un film qui a donné énormément de travail à Nikita Mikhalkov, puisqu'il a mis 12 ans à refaire un film après Le Barbier de Sibérie, qui date de 1998. Mais bon, c'est ça la méthode russe, hein. On consacre à chaque fois une année entière à l'approfondissement d'un seul personnage. Et donc quand on adapte 12 hommes en colère, eh bien ça prend 12 ans. Voilà, alors rassurez-vous, il y a aussi pas mal de films qui sortent aujourd'hui et qu'on peut sans regret jeter aux orties sans les avoir vus. Donc déjà pour les fans de Jumper et Push ou autres heroes télévisés, vous pourrez aller satisfaire vos bas instincts devant au choix Percy Jackson, le voleur de foudre de Chris Columbus, ou bien Ninja Assassin de James McTague. Voilà, ou comment faire un blockbuster avec des super-héros quand on n'a pas les droits d'adaptation du catalogue Marvel ou du catalogue DC Comics. Donc le premier film va nous raconter l'histoire d'un jeune homme complexé par ses problèmes d'acné qui va découvrir qu'il est le descendant de Zeus et qu'il peut donc utiliser la foudre pour se faire des œufs au plat. Quant au deuxième film, le réalisateur de V pour Vendetta nous propose une histoire de ninja dont la qualité du scénario risque de s'avérer inversement proportionnelle à la quantité de sang utilisé pour barbouiller les décors et les costumes des méchants ninjas qui ne vont pas manquer de se faire dézinguer par le gentil ninja. On écoute un petit extrait.
Fais gaffe, Jack, couche-toi. Il faut que tu restes calme. Tu seras bientôt remis. T'inquiète pas. Il est trop puissant. Trop cruel. Trop fort. Ouais, raconte-moi. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja.
Quoi?
Ninja? Le tueur est un ninja?
Ouais. Tu dois me croire, Tony. C'est la vérité, il faut que tu me croies, je ne délire pas.
Mais je te crois.
Tony, les ninjas sont puissants. Fais bien attention. Ne prends pas de risques.
Écoute-moi, Jack. Sois fort. Guéris vite. Le sang que tu as perdu n'a pas coulé en vain. Je sais comment lui faire payer ses crimes.
Voilà, donc c'est un extrait, bien sûr, du film de James McTagg, Ninja Assassin. Non, je plaisante, c'est un film, un extrait de Clash of the Ninja, un excellent nanar qui doit valoir plus le coup que le dernier film de McTagg. Alors pour continuer avec le haut du panier, je vous propose également de ne pas aller voir L'Autre Dumas de Safi Nebout, qui s'intéresse à la relation entre l'auteur des Trois Mousquetaires et son fidèle collaborateur Auguste Maquet, à qui certains attribuent plusieurs romans édités sous le seul nom de Dumas. Alors soit l'antithèse absolue de La Horde, où chaque zombie est remplacé par une feuille de papier sur laquelle s'étale la prose épaisse de cette légende de la littérature française. Donc la confrontation entre l'auteur et son nègre est au centre du film, et le réalisateur a choisi un couple de comédiens plutôt consensuels pour camper les deux hommes, donc Benoît Poelvoorde dans le rôle de Maquet, et qui de mieux pour incarner un gros écrivain du 19e siècle que Gérard Depardieu. Voilà, donc pour ma part, payer 9 ou 10 euros pour voir un téléfilm sur la vie d'un des locataires du Panthéon, personnellement j'attendrai que ça passe sur Arte à une heure décente. Sinon, pour tous les nostalgiques qui en ont assez que des créatures au potentiel iconique et romanesque aussi fort que les loups-garous fassent l'objet de films super bourrins comme Underworld ou super mièvres comme Twilight, eh bien vous pourrez aller découvrir dès aujourd'hui Wolfman de Joe Johnston, qui revient aux sources du mythe en nous proposant un remake du classique des studios Universal avec Lon Chaney Jr. et Bela Lugosi. Donc c'est Benicio del Toro qui enfile cette fois la fourrure et les griffes de la créature. Et c'est le génial Rick Baker qui s'occupe des maquillages. Donc ne serait-ce que pour découvrir le travail de ce maître du maquillage qui a travaillé sur, entre autres, le hurlement de Joe Dante, sur les Men in Black, ou sur encore Vidéodrome de Cronenberg, eh bien, simplement pour constater que Rick Baker n'a pas perdu sa patte, eh bien, ce film devrait valoir le détour, même s'il faut quand même ne pas trop en attendre de la part du réalisateur de Jumanji et de Jurassic Park. Voilà, donc pour en finir avec ces sorties de la semaine, signalons rapidement deux autres films plus ou moins intrigants. Le premier a pour titre I Love You Philip Morris et va nous raconter l'histoire vraie de Steven Russell, un américain maître de l'arnaque qui s'est évadé au moins 4 fois de prison grâce à divers stratagèmes. Donc une personnalité assez étonnante qui devrait donner un semblant d'intérêt à ce film si eh bien le comédien qui incarne Steven Russell, Jim Carrey, n'en fait pas des tonnes et si l'alchimie entre Ewan McGregor et Jim Carrey fonctionne, ce qui paraît plutôt mal barré. Vous y croyez, vous, au couple Carré-McGregor en amoureux transi? Ouais. Donc le deuxième film qui me paraissait intéressant de citer s'intitule « C'est parti » et il s'agit d'un documentaire qui retrace la dissolution de la LCR et la fondation du nouveau parti anticapitaliste dont Olivier Besancenot est un des fers de lance. Alors une initiative assez surprenante, hein, en pleine campagne pour les régionales qui vont se tenir le mois prochain, mais bon, pour une fois que ce n'est pas Carl Zero qui réalise. Donc le NPA essaierait-il de se pipoliser pour gagner quelques voix avec ce film ? On verra bien. En attendant, on écoute la bande-annonce.
Être de gauche, c'est prendre ses responsabilités. Être de gauche, c'est aller au pouvoir, même quand c'est difficile et même quand ça implique des compromis.
Est-ce que c'est de gauche de privatiser ? Est-ce que c'est de gauche de déréglementer ? Est-ce que c'est de gauche de faire exploser les inégalités ?
Franchement, ça résume à ça. Je me fais suivre chier. À chaque fois qu'on est entre nous, on se fait chier.
Bon, qu'un amour dure, vous pouvez le consommer, mais il faut être chacun de son côté. Hein.
Le NPA ne sera pas un parti extrémiste. Donc si c'est un parti extrémiste, eh bien je m'en vais.
Écoutez, si ça vous fait marrer, marrez-vous. Moi, je pense qu'il y a des fois que vous raisonnez de travers. Voilà, donc moi, ce qu'il faut, c'est que je me pose dans une salle, qu'on explique gentiment aux gentiliennes qu'on ne signe pas des autographes. Mais c'est aussi con que ça.
Les gens, aujourd'hui, on leur a tellement bassiné qu'ils n'étaient pas capables, ce n'était pas à eux. Il va falloir passer par un stade de réveil.
Quelle histoire ! Quelle histoire !
Pour la première fois, on essaye vraiment et on en arrête de dire « il faudrait, ce serait une super idée » et puis voilà, de faire le énième appel. Cette fois-ci, c'est pas un appel, c'est une réunion où il y a quelque chose qui est en train de se produire.
Bravo, Basile.
Film projeté dans une seule salle, Martin.
Oui. J'ai pas fait attention au nombre de copies qui avaient été sorties. Bah, peut-être, ouais. Donc, vous n'aurez pas la chance de le voir, ou alors peut-être plus tard.
Oui, peut-être dans le réseau Utopia.
Voilà, par exemple. Donc, c'est tout pour cette semaine. Maintenant, on va passer à d'autres films qui sortent, mais dont on va parler un peu plus en profondeur, en tout cas pour le Marc Récha. Donc, voilà, profitez bien des sorties en salle de cette semaine, mais surtout, n'allez pas voir n'importe quoi.
Merci Martin. Marc Récha, cinéaste catalan, réalisateur du remarqué Pau et son frère et du non moins remarqué Les Mains Vides, revient avec C'est ici que je vis, qui raconte l'histoire de Arnaud, un adolescent qui va devenir un jeune homme. Arnaud vit avec sa sœur dans la banlieue de Barcelone, au milieu d'une voie de chemin de fer en construction, aux abords d'une rivière qu'il doit traverser s'il veut rejoindre la ville plus facilement, un lieu qui a son importance. Alors Arnaud est plutôt solitaire, il collectionne des oiseaux qui participent à des concours de chant avec un certain succès, il faut le dire. Alors son drame, eh bien, c'est sa mère qui est en prison et qu'il aimerait bien faire sortir. Alors s'il est seul, Arnaud est quand même entouré d'un frère qui va et qui vient, interprété par Eduardo Noriega, un oncle qui l'emmène aux courses de l'évrier, interprété par Sergi Lopez. Arnaud n'a plus de secret pour nous, on voit sa vie de tous les jours et comment il se fixe par rapport au monde adulte.
Disons que le film, c'est une fable sur la perte de l'innocence, non ? Et que, bon, on a choisi ce chemin pour éviter un peu, on a fait exprès, non? Dans le moment de l'écriture du scénario qui était en 2004, pour un peu échapper de l'idée de créer une espèce de néo-néo-réalisme sur cette sorte de Barcelone un peu spéciale, non? Disons qu'on a pensé, tiens, déjà, l'histoire c'est suffisamment lourde et costaud. Et alors imaginons un peu un film plus lumineux, non, plus poétique, dans ce côté. Arnaud, je pense qu'il habite dans une espèce d'univers parallèle, non, à la réalité. Il ne s'aperçoit pas de les choses que normalement tous les autres êtres humains on sait un peu, non. Et puis après, bon, à la fois c'est une façon que lui. Il y a une sensibilité spéciale, non, qui fait circuler cette sensibilité dans le milieu des oiseaux, non, toutes les compétitions d'oiseaux et tout ça, non. Évidemment, seulement à lui, imagine de mettre les petits renards dans une espèce de cage où il y a des autres oiseaux, non. On sait tous que si on fait ça, évidemment, les renards bouffent les oiseaux. Disons que au début, quand on avait choisi l'histoire des oiseaux, tout cet milieu des oiseaux, on a fait un vrai travail d'observation, non, de vraiment d'aller à voir qu'est-ce qu'ils font ces gens. Et on a découvert une chose intéressante, c'est que là, il y a un mélange, mais d'une façon transversale, hein. Ça veut dire des gens riches, des gens plus working class, tout le monde mélangé, gens qui viennent de la grande ville ou de la forêt, mais qu'il y avait pas mal de gens de 15, 14 ans, 16 ans, exactement comme Arnau. Et nous, tu te demandes rapidement, mais qu'est-ce qui fait cette sorte de gens ici avec des hommes de 60 ans, de 70 ans, non, qui n'a aucun contact, même ni culturel, ni politique, ni rien. Non. Et à la fin, c'est les oiseaux. Les lions, c'est les oiseaux. Non. Et si on va plus loin que ça, et on commence vraiment à faire des enquêtes et à parler avec eux, on s'aperçoit qu'Arnau, il est pas loin de ça. Non. On découvre des gens avec une sensibilité spéciale. Oui, vraiment, ils sont dans la solitude, mais pas la solitude de la chose, de la frustration ou l'ostracisme, non, sinon une solitude avec la nature, avec les animaux, très, 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 très spécial. Non. Mais à la fois, ça représente qu'ils habitent dans un monde totalement de papier, totalement irréel. Non. Ils ne s'aperçoivent pas de la réalité.
No ha hecho nada.
Sí, eso díselo al juez.
Voilà, donc un son. Alors, il faut tendre l'oreille, hein, parce que je n'avais pas mon matériel habituel. Donc, on entend même le journaliste écrire sur la table. Voilà. Donc, la vie d'Arnaud, ce sont les oiseaux. Hein, Marc Rechat l'a bien dit, mais pas facile de filmer un concours de chants d'oiseaux quand une vingtaine de piafs chantent en même temps. Alors, Marc Rechat a bien regardé comment ça se passait, c'est ce qu'il expliquait. Et il a tenté de faire partager ce moment avec le spectateur. Alors, il utilise pour cela la relation entre le son et l'image. Il devait à un moment... ou un autre utiliser ce que Michel Sion, théoricien du cinéma, appelait la synchrèse. La synchrèse survient lorsque l'image que nous voyons et le son que nous entendons sont reliés intimement, bien souvent par un gros plan. Alors à un moment, le beau chant devait correspondre à un oiseau précis. On écoute.
Voilà.
La chose plus difficile dans ce tournage, c'était ça. Parce qu'il y a un moment que tu es perdu dans la toile d'araignée de les oiseaux, parce que tu dis, bon, il y a 400 oiseaux qui sont en train de chanter. Il y a des différentes catégories, il y a tous les gars qui sont face à toi, qui n'arrêtent pas de dire, bon, mais il faut faire ça. Dis, bon, attention, un peu de tranquillité, on va aller non, pas à pas, parce que sinon c'est impossible. Et nous-mêmes nous sommes perdus à l'intérieur. Mais pas seulement ça, sinon qu'à les montages, c'était pire. Parce qu'il y avait 10 000 prises d'images et de sons de ça. Et bon, à la fin, nous étions obligés de prendre le téléphone et appeler directement à des spécialistes pour qu'ils viennent à dire, bon, cet oiseau chante ça, et après il y a la mélodie qui fait blablabla, bla, bla, machin. Et moi, je suis pas sûr maintenant encore si le spectateur va compris vraiment à niveau documental, non, à niveau didactique, toutes les choses qui passent là. Parce que moi-même, toute l'équipe de tournage, bon, il y avait un moment qui dit basta. Parce que c'est la, ben imaginez-vous l'ingénieur du son, il finit fou avec, non, avec tout ça, parce qu'il chante, il chante tout le temps. C'est à la fois c'est passionnant, mais il y a un moment qu'il faut s'en faire éloigner, parce que c'est, et normalement, je pense que c'est logique, dans toute cette sorte de métiers ou des choses comme ça, non, des gens qui sont très mis et qui plongent directement dans le monde des oiseaux, ils sont vraiment têtus. Hein. Il y a une chose de fierté, de nous sommes les gens qui nous sommes ici et nous faisons ça. Ça, on voit ça au début du film, dans le premier concours des oiseaux, non, où il y a la cam qui s'approche à la cache et Arnau entre juste un moment pour laisser sa cache. Il gagne, non. Il y a ça. Tous les gens qui sont là sont des vrais, non. C'est un univers un peu labyrinthique, mais difficile. Pour moi, c'était la chose plus difficile du tournage. Parce que, oui, on pourrait faire un film documental sur ça, non, mais il ne s'agit pas de ça. Non. On doit suivre un peu la ligne argumentale, non, du film, non, mais c'était difficile.
Voilà, donc c'était Marc Réchat que l'on entendait, réalisateur de C'est ici que je vis. Donc on voit eh bien, ces espèces de concours d'oiseaux, ce qui est assez rare, j'imagine, au cinéma. Peut-être dans des films iraniens, on peut voir ça aussi. Je ne sais pas, ou des films asiatiques.
Les convoyeurs attendent, mais ce n'était pas vraiment sur les champs d'oiseaux. Là,
c'était sur les pigeons. Voilà.
Les colombophiles qui élève des pigeons voyageurs.
Voilà, c'est les pigeons voyageurs.
Mais c'est vrai que c'était pas très chantant.
Non, là c'est très très chantant, effectivement, il y a plein de piaf partout. Voilà, et c'est fini pour la première partie de cette interview, parce qu'il faut faire reposer le cerveau, étant donné que, bon, même s'il parle français, je trouve que c'est parfois un peu compliqué. Et dans la prochaine partie, eh bien, je vous parlerai cette fois-ci des courses de lévrier qui sont aussi présentes dans ce film. C'est Cinérama. Et on entame Peter Jackson maintenant.
Oui, aujourd'hui, en fait, sort un autre film donc, qui, bizarrement, n'a pas fait beaucoup parler de lui avant sa sortie. Bizarrement parce qu'il s'agit de Lovely Bones, le nouveau film de Peter Jackson, et que bon, le réalisateur est quand même une personnalité du cinéma qui joue aujourd'hui dans la même cour que des George Lucas, James Cameron et autres Steven Spielberg, avec qui il prépare d'ailleurs une adaptation des aventures de Tintin au cinéma. Alors pourquoi une telle discrétion à l'heure où certains blockbusters hollywoodiens comme Avatar, pour ne pas le citer, engloutissent des centaines de millions de dollars uniquement dans la communication? Pourquoi le réalisateur mondialement célèbre de la trilogie Le Seigneur des Anneaux s'est fait tout petit pour nous annoncer sa dernière œuvre? Eh bien, pour répondre à ces quelques questions existentielles qui m'ont, je vous l'avoue, empêché de dormir depuis mercredi dernier, je vous propose aujourd'hui de faire un petit voyage à travers la filmographie de ce réalisateur qui, des petits films comiques et très gore de ses débuts jusqu'à la consécration mondiale avec Le Seigneur des Anneaux, a suivi un parcours assez étonnant, assez varié et audacieux qui mérite qu'on y revienne un petit peu. Alors Peter Jackson a deux visages, comme le Janus de la mythologie romaine. D'un côté, il y a ce petit garçon qui, dès son plus jeune âge, est tombé amoureux des effets spéciaux spectaculaires de Ray Harryhausen et d'un singe géant nommé King Kong, et qui, avec une peluche et une maquette d'immeuble, recréait dans son jardin les scènes d'action les plus marquantes du film. Et puis d'un autre côté, il y a ce même petit garçon qui a été frappé par la tendresse avec laquelle la bête regardait la belle, par cet amour impossible et finalement plus meurtrier que les balles crachées par les avions.
Les avions n'ont eu.
Les avions n'y sont pour rien. C'est la belle qui a tué la bête.
Alors en simplifiant à outrance, il est possible de diviser de la même façon la filmographie du bonhomme en deux parties, même si la plupart du temps les deux aspects de la personnalité du cinéaste sont intimement mêlés. Alors il y a le Peter Jackson, qu'on va qualifier de masculin, attiré par l'aventure, la violence et l'humour potache, et il y a le Peter Jackson plus féminin, plus romantique, cérébral ou poète, qui vient tempérer un petit peu les excès commis par son autre moitié. Donc je vais laisser à d'autres le soin d'attribuer chacune de ces facettes au réalisateur ou à sa compagne, Frances Walsh, un couple à la ville et au boulot, puisque la dame a co-signé comme scénariste la quasi-totalité des films de son mari depuis Bad Taste en 1987. Mais bon, pour ma part, je vais pas faire de psycho-esthétique aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser au film, et on va justement commencer par Bad Taste.
Ici les urgences. Quel service demandez-vous, s'il vous plaît?
Faites vite! Il me faut quelqu'un pour m'aider!
D'où appelez-vous?
De Kéoro! D'une cabine! Il y a eu un bruit assourdissant! Une lumière blanche très vive dans le ciel! Puis ces envahisseurs ont commencé à nous massacrer!
Ne quittez pas, je vous passe le département des affaires
extérieures. Non, c'est trop tard, ils sont là!
Allô? Vous êtes toujours là?
Alors ce film de série Z raconte comment une sorte d'ersatz de l'agence touriste va venir contrecarrer les plans d'une bande d'extraterrestres qui ont envahi la Terre pour se remplir la panse d'Homo sapiens et pourquoi pas lancer une chaîne de fast-food interplanétaire spécialisée dans le hamburger humain. Alors tourné sur 4 ans avec 3 bouts de ficelle, beaucoup de tripailles et d'explosifs en tout genre, et surtout avec un amour immodéré pour le nanar, Bad Taste constitue un spectacle totalement régressif mais inventif, où l'humour potache le dispute au gore le plus grotesque. Alors si le film a acquis depuis sa sortie en 87 un statut de film culte, j'avoue qu'il vaut mieux avoir le cœur bien accroché et également quelques packs de boissons mousseuses pour l'apprécier à sa juste valeur. Donc après le succès inattendu de ce premier film, dans plusieurs festivals où il est projeté, Peter Jackson retourne au cinéma 2 ans plus tard avec Meet the Feebles, donc une sorte de parodie complètement délurée du Muppet Show, dans lequel le réalisateur met en scène une bande de marionnettes, toutes plus hideuses les unes que les autres, pour dresser un portrait subversif du monde du show business. Alors on retrouve avec bonheur l'humour trash et souvent gore de Peter Jackson dans ce défilé de personnages loufoques et de situations absurdes. Je vous propose d'écouter les premières minutes de ce film, histoire de vous donner une petite idée de la chose.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Soyez les bienvenus au nouveau et au plus grand spectacle qui ait jamais été présenté dans toute l'histoire du music hall. Je vous demande d'applaudir la fabuleuse prestation des Feebles. Attention, mesdames et messieurs, voici... Paris !
Youpi ! Me voilà, me voici ! Bonsoir tout le monde ! Les amis, bienvenue à ce merveilleux spectacle ! Et vous avez de la peine, nous avons réuni pour vous les meilleurs ! Et en premier lieu, permettez-moi d'annoncer celle qu'on ne présente plus, celle que j'appellerai notre Vénus, la plantureuse hippo respectée de tous les fibres, j'ai nommé Heidi ! On n'arrive plus à bouger son cul.
C'est intolérable. Comment oses-tu me parler à moi de cette façon? Espèce d'immonde, rare dégoût, moderne, t'es propre.
Tu veux que je te dise, gros temps, la chasse d'eau de mon chiotte est plus agréable à entendre que ta voix?
Ça suffit, je refuse d'en entendre davantage. Je suis une artiste et j'exige qu'on me respecte.
Une artiste? Ah ben merde, ça c'est la meilleure.
C'en est trop! Tu dépasses les bornes. Je vais de ce pas me plaindre à Blutch.
Ouais, va chialer ailleurs, boudin.
Mais sans voir ce qui se passe là-bas. Heidi? Heidi, où vas-tu? Oh, Trevor, ne me dis pas que tu la comprends rien. Tu sais bien qu'elle est infernale quand elle fait lingueule.
Cette vieille vache commence à me taper sur le système.
Ça fait maintenant longtemps qu'elle est là, mais c'est toujours elle la star du spectacle. Sans elle, plus de Feebles. Mets-toi ça dans le crâne. Allons les enfants, remuez-vous. Je vous rappelle que nous n'avons que 12 heures avant le direct. Et loin de moi l'idée de semer le trouble et la panique parmi vous, bien entendu. Mais on n'y arrivera jamais. Alors secouez-vous, nom de Dieu.
Voilà donc un film hystérique, gore, sexuel, etc., où des marionnettes se shootent, s'entretuent. Donc Meet the Feebles constitue jusqu'à aujourd'hui l'unique incursion de Peter Jackson dans le monde de l'animation. Et c'est une réussite, mais bon, ce n'est pas avec son futur Tintin en performance capture qu'on va retrouver cet univers drôle et baroque, où donc toutes ces marionnettes se débitent des obscénités, tout en voilà en illustrant un monde du show business assez particulier. Alors on va passer rapidement sur Braindead, que Jackson tourne en 1992 et avec lequel notre enfant terrible du cinéma va clôturer son exploration de la comédie gore en feu d'artifice. Donc Braindead est récompensé par le Grand Prix au Festival d'Avoriaz en 93 et il est considéré comme l'un des films les plus gore de l'histoire du cinéma. Voilà, à ce titre, la scène avec la tondeuse à gazon n'a, à mon avis, pas encore été égalée en termes de délire grand guignol. Voilà, on reviendra dans une autre partie de ce dossier sur le reste de la filmographie de Peter Jackson, mais tout de suite, on retrouve Marc Recha.
Et oui, et c'est beaucoup moins spectaculaire que Peter Jackson. Il n'a pas encore donné dans la trilogie, d'ailleurs, Marc Recha. Donc, on parle de « C'est ici que je vis ». Je l'ai annoncé tout à l'heure dans ce film. Il est question de chants d'oiseaux, mais aussi de courses de lévriers. Donc des histoires de cage, hein, finalement, l'oiseau est en cage et le lévrier l'est aussi avant qu'il ne soit lâché à la poursuite d'un faux lièvre. Une ambiance particulière dans ce film puisque le cynodrome n'existe plus dans cette banlieue de Barcelone comme nulle part en Espagne. Et pour cette scène, Marc Recha évoque Steve McQueen dans Guet-apens de Sam Peckinpah.
On avait créé ça pour voir d'une façon aussi clinique, très, très précise, tous les process de la même façon que nous avons essayé de faire ça avec la compétition des oiseaux, non? Avec les chiens, c'était exactement pareil, non? De la même façon que ce film de Peckinpah où il y a Steve McQueen qui a une espèce de ruedo. Bon, on comprend parfaitement qu'est-ce qu'il fait Steve McQueen et quel c'est son boulot, pourquoi il fait ça. On arrive à comprendre bien comment il bouge les choses. Et nous avons essayé de faire ça à les synodromes. Mais d'un coup, il y avait un petit cadeau qui pour nous était génial, que tous les gens qui sortent dans la figuration sont des gens réels qui font des paris, qui jouent d'argent à l'époque. Et tous les gens qui sont dans l'écran, qui sont avec les chiens, ça veut dire les gens qui travaillent à l'endroit, ils sont des vrais travailleurs d'avant. Et ça, pour nous, c'était une surprise, un cadeau, parce qu'il y a une sorte d'authenticité qu'il y a un moment que tu dis basta, mis la cam comme ça, et les gens, ils parlent par lui-même, non, il faut faire rien. Totalement artificiel et rien, non? Parce que normalement, quand on fait des films ou quand vous faites des castings par rapport à la figuration, c'est très complexe.
Marc Recha s'est donc passé des castings et a reconstitué l'ambiance du cynodrome avec les personnes qui s'y rendaient. Et il est vrai que de ces scènes se dégage une certaine authenticité. Alors parlons maintenant de la musique. Elle intervient par moments pour souligner les changements de Arnaud ou caractériser des personnages. Une musique composée par son frère, c'est pratique. Ben, on va peut-être écouter l'extrait.
¿Sabes dónde puedo encontrar un listado de abogados? ¿Sabes de alguien que me pueda dar un trabajillo?
¿Te has metido en problemas?
Avant le tournage, on a déjà commencé avec mon frère a travailler dans son petit studio au Pyrénées. Et puis après, pendant les montages images, aussi, non? J'ai parlé beaucoup à mon frère de, imaginons, que, espèce de Prokofiev, non, avec Pierre et le Loup, que chaque personnage, il a une musique totalement différente, des matices totalement différents. On pensait avec la musique de l'oncle Ramon, à la musique d'Arnau, dans des différents moments, avec de Sergi aussi, de Sole. On a travaillé d'une façon très, très artisanale, avec, dans un studio, avec des instruments inventés, des choses comme ça. Et puis après, bon, il a écrit, non, de ça, et après, dans un petit studio à Barcelone, on a fait le pré-mixage et l'enregistrement sonore avec des vrais musiciens, avec chacun qui joue avec son instrument d'une qualité extraordinaire. Et puis après, dans un cinéma, dans un auditorium de mixage spécial, on a fait le mixage final. Moi, je pense que c'est... Il y a une sorte de volonté de créer une espèce de structure narrative avec cette musique qui accompagne à la fois, mais qui à la fois aussi parle de personnages. Et surtout chercher que le spectateur y a le plaisir d'écouter ça.
Dentro de un par de carreras hay dos perros que son seguros.
Querría saber cuánto me daría. 10.000 euros.
¡Pilo!
Eh oui, hein, toujours les oiseaux. Alors au final, C'est ici que je vis est un petit film qui nous montre un jeune adolescent qui se prépare à l'âge adulte. On devine assez vite quel drame guette Arnaud. D'ailleurs, Marc Recha en a parlé quand on met des oiseaux avec un renard, puisqu'il recueille un renard malade au bout d'un moment. On imagine ce qui va se passer. Le plaisir est donc ailleurs, du côté des acteurs sûrement, des rapports qu'ils peuvent avoir entre eux. Il n'empêche qu'il y a une petite maladresse de mise en scène qui fait intervenir un personnage trouble plusieurs fois, qu'il l'annonce donc, alors qu'il aurait pu être un personnage totalement surprenant. La manière qu'a Marc Recha de l'annoncer ne colle pas tout à fait avec l'activité de ce bandit, mais je ne peux pas en dire plus sous peine de gâcher le plaisir si vous comptez aller voir donc C'est ici que je vis, film de Marc Recha qui sort aujourd'hui, notamment à Montpellier, donc au cinéma Diagonale.
Et on revient, pouf pouf, à Peter Jackson, ça aurait été du découpé sur mesure aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un petit extrait avant de continuer sur la filmographie du réalisateur.
Christchurch, une ville dans les plaines de Nouvelle-Zélande. Ici, quand le printemps vient à Canterbury, les jonquilles fleurissent dans les bosquets de Hagley Park. De là, de grands buildings, des rues animées. Et au cœur de la ville, la place de la cathédrale. L'université de Canterbury, avec ses façades de pierre grise patinées et ses cloîtres ombragés. C'est ici que notre plus grand physicien fit ses premiers pas. L'école des filles se trouve place Trenla, c'est-à-dire juste à côté des étendues de Hagley Park et de ses nombreux terrains de sport. Au printemps, en été et en automne, les jardins de Christchurch sont joyeusement colorés. Oui, Christchurch est une paisible petite ville de Nouvelle-Zélande. Des années 1953-1954, Pauline Yvonne Parker relata dans son journal son amitié avec Juliette Marion Hulme. Voici leur histoire, fidèlement tirée des propres mots de ce journal. Créature céleste.
Voilà donc l'introduction de Heavenly Creatures, particulièrement impressionnante, de Peter Jackson. Donc après sa trilogie de comédie gore, le réalisateur va prendre tout le monde à contre-pied et révéler au monde qu'il n'est pas seulement un grand adolescent, que la tripaille fait bien rigoler, mais qu'il peut également faire preuve de sensibilité en mettant en scène un drame. Alors Créature Céleste sort en salle en 1994 et surprend à plus d'un titre. Jackson accouche d'une œuvre très intime qui mêle adaptation réaliste d'une histoire vraie et univers de fantasy parfaitement servi par la société d'effets spéciaux du réalisateur Weta Workshop qui, à l'occasion de ce film, inaugure d'ailleurs une section spécialisée dans les effets numériques, Weta Digital. Alors la critique est réceptive et le film rafle plusieurs prix internationaux dont un Lion d'argent au Festival de Venise, le Grand Prix de Gérard Mer qu'il avait déjà remporté avec Brain Dead quand le festival s'appelait encore Avoriaz. Et il est également nominé aux Oscars pour le scénario. Donc pour Peter Jackson, c'est vraiment son ticket d'entrée à Hollywood. Et deux ans plus tard, donc ça va être s'avérer payant, puisque Robert Zemeckis, le réalisateur de la trilogie Retour vers le futur, propose à Peter Jackson et Fran Walsh de rédiger un spin-off des Contes de la Crypte qu'il souhaite réaliser. Alors le projet deviendra au final Fantôme contre Fantôme, avec Michael J. Fox dans son dernier rôle principal, et avec Peter Jackson derrière la caméra, Zemeckis ayant considéré que le résultat serait plus intéressant s'il laissait sa place de metteur en scène. Alors même s'il n'a pas été un succès en salle, Fantôme contre Fantôme reste un film très recommandable, aux effets spéciaux réussis et à l'intrigue prenante. Mais bon, c'est peut-être le film le moins personnel de Peter Jackson puisqu'il correspond un petit peu à une commande. Alors on va passer maintenant au gros morceau de cette filmographie, à savoir l'adaptation du Seigneur des Anneaux de Tolkien que Peter Jackson a réalisé entre 1999 et 2000. Alors bien sûr, il y aurait de quoi occuper des dizaines d'heures d'antenne, rien que pour parler un petit peu en profondeur de cette trilogie de plus de 10 heures. Je vais donc essayer d'être aussi bref que possible. Donc Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est une œuvre absolument miraculeuse, vu la gageure que représentait le projet d'adaptation de cette immense saga littéraire. Et pour le réalisateur, le premier défi a été de convaincre les studios de production de conserver la structure en 3 actes pour préserver au maximum l'intégrité de l'œuvre originale et également correspondre au découpage éditorial qu'on connaît. Même si les puristes rappelleraient que Tolkien voulait publier à la base son histoire en 1 seul volume, voilà, les éditeurs avaient décidé plutôt de le séparer en 3. Et vous imaginez la tête des exploitants de cinéma si Peter Jackson avait décidé de faire 1 seul film, voilà, pour organiser des séances avec un film qui dure plus de 10 heures, je vous raconte pas.
Ça aurait été un film de musée.
Oui, voilà, même s'il y en a qui l'ont fait. Bellatar, par exemple, oui. Avec Le Tango de Satan, avait fait un film énorme. Je sais pas s'il a été projeté d'affilée au cinéma, mais sans doute.
Mais sans doute dans des petites salles.
Ouais, il y avait un autre film italien aussi qui durait plus de 6 heures, je crois, qui avait été projeté, mais en 2 fois.
Il y a Andy Warhol aussi qui avait fait ça dans les fins des années 60.
Il y a des exemples, mais c'est vrai que sur un blockbuster de cette ampleur, c'était quand même un pari un peu osé. Et voilà, les producteurs lui ont dit non, on va couper ça en 3 actes, ce qui a satisfait d'ailleurs le réalisateur. Donc après de longues négociations financières, le premier coup de manivelle est donné en Nouvelle-Zélande, pays natal du réalisateur, et lieu choisi pour être la terre du milieu au cinéma.
Yamar Prestarnai.
The world is changed.
Hanmathon Nennin.
I feel it in the water.
Hanmathon Nehai.
I feel it in the earth.
Hanoston Nen Willis.
I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live who remember it.
Alors, juste précisons, j'ai choisi de vous mettre les 2 extraits, donc cet extrait et l'extrait suivant, je les ai laissés en elfique sans sous-titres, voilà, parce que j'ai toujours pas réussi à me faire à la version française de ce film qui enlève énormément de choses à ce film. Déjà parce que voilà, l'histoire a été écrite en anglais et que Tolkien était un linguiste et qu'il a travaillé énormément sur son texte.
Puis là, c'était Blanchett. Hein,
Et puis c'est la voix de Cate Blanchett quand même. Non, puis il y a certains détails. Enfin voilà, c'est oublier la version française sur ce film. C'est pour ça que j'ai mis donc les extraits en version originale. Alors, à mon avis, la première réussite de Peter Jackson et de ses scénaristes, c'est d'être parvenu à conserver ce qui fait la saveur du livre de Tolkien, tout en ne s'interdisant pas de prendre certaines libertés avec le texte et avec le déroulement de l'histoire. Donc certains personnages disparaissent complètement dans le film, d'autres ont des destins différents, et le même principe est utilisé pour le choix des péripéties à mettre en image. Alors les 2 exemples les plus frappants de ce processus d'adaptation sont la disparition pure et simple d'un chapitre du livre particulièrement important aux yeux de Tolkien, à savoir la reconquête de la comté à la fin de l'histoire. Et à l'inverse, il y a l'apparition d'une séquence qui n'est pas du tout développée dans l'œuvre originale, c'est la découverte de l'anneau par Sméagol et sa transformation progressive en Gollum.
Precious.
Our name. Voilà, et là, c'est l'un des exemples, à mon avis, qui fait qu'il faut préférer la version originale à la version française, c'est que la voix de Gollum en français est assez ridicule, que là, il y a vraiment une recherche sur le son, sur les sifflements qui sont beaucoup plus intéressants en anglais.
Mais moi, j'avais bien aimé la voix. C'était peut-être un peu plus.
C'est bien fait, c'est bien fait. Voilà.
Tu vois, je l'ai même.
My precious. Mais bon, c'est aussi la voix de Féodor Atkin qui double tous les personnages des séries télé diffusées sur TF1. Et bon, ça pêche un petit peu au milieu de la Terre, sur la Terre du Milieu, d'avoir des voix qu'on attribue d'habitude au docteur machin de la série Hôpital et compagnie. Alors, l'autre grande réussite de cette adaptation, c'est d'être parvenu à inventer pour cet univers de papier un visage en couleur, en lumière et en volume. Donc là où Ralph Bakshi, qui était le premier à s'être intéressé à l'adaptation du Seigneur des Anneaux, et bien là où il avait fait le choix de l'animation pour transposer le monde de Tolkien sur grand écran, Peter Jackson, lui, consacre toute son attention à donner une identité visuelle photoréaliste à la Terre du Milieu. Alors le travail exceptionnel de John Howe et de Alan Lee, qui sont les deux principaux concepteurs graphiques de la trilogie, mais également le travail des décorateurs, des maquettistes, des sculpteurs et des costumiers des ateliers de Weta Workshop, ont permis à la vision personnelle du réalisateur de naître sous nos yeux ébahis. Donc pour beaucoup de futurs lecteurs de Tolkien, mais aussi pour ceux qui avaient lu le livre avant de voir les films, la Terre du Milieu aura longtemps l'aspect de la Nouvelle-Zélande et Frodo Baggins, les yeux bleus d'Elijah Wood. Alors bien sûr, le film n'est pas sans défaut et certains pisse-froids ne retiendront sans doute de cette œuvre que les répliques sentencieuses de Legolas, du genre « le ciel est voilé, quelque chose s'agite à l'est » ou d'autres, voilà. Ou encore, ils retiendront le traitement parfois un peu kitsch de ce qui a trait à la culture elfique. Mais bon, pour moi, le Seigneur des Anneaux reste une des plus grandes aventures cinématographiques qu'il m'a été donné de découvrir au cinéma. Une vision pleine de bruit et de fureur, pleine de figures héroïques et de moments de bravoure inoubliables, et une œuvre surtout empreinte d'un profond respect de l'œuvre de Tolkien. Alors avant de passer et de conclure ce dossier, je vous propose d'écouter un petit extrait de la bande originale composée par Howard Shore. Voilà donc un extrait de la bande originale du Seigneur des Anneaux. Vous l'aurez reconnu, bande originale signée Howard Shore et qui participe beaucoup, à mon avis, de la réussite de ce film. Alors pendant qu'on écoutait ce morceau, Vincent m'a fait justement remarquer que j'avais complètement oublié un film dans cette filmographie. C'est Forgotten Silver que Peter Jackson a tourné entre Heavenly Creatures et Fantôme contre Fantôme. Un film donc tourné en 95 qui est un film assez étonnant, un docu-fiction. Produit pour la télévision et qui est une sorte de documentaire sur un précurseur du cinéma qui s'appelle Mackenzie, je crois.
Oui, c'est ça.
Et qui néo-zélandais, un précurseur du cinéma néo-zélandais qui aurait inventé tout avant tout le monde, donc avant les frères Lumière, il aurait trouvé des procédés de projection avant tout le monde, il aurait inventé le cinéma parlant, le cinéma en couleur. Voilà, et Peter Jackson va jusqu'à reconstituer des vieilles images d'archives, il prétend qu'il a trouvé un coffre rempli de pellicules du dernier film de Mackenzie. Et c'est un film assez étonnant, assez rigolo, parce qu'il y a plein d'intervenants qui viennent...
On pourrait y croire. C'est comme l'opération Lune de Carrel, qui voulait expliquer que jamais les Américains ont marché sur la Lune. Ce serait un bidouillage des studios d'Hollywood, parce qu'il y avait le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, en même temps. Enfin, voilà. Enfin, on est vraiment sur ce terrain-là. C'est terriblement bien fait, parce que ça utilise la narration habituelle d'un documentaire, en fait.
Oui, et ça fait intervenir des vraies personnalités du cinéma qui disent « Oui, mais depuis toujours, Mackenzie, moi, c'est une grande inspiration pour moi. » Donc ça, c'est un film assez étonnant. Il a été pris au sérieux au moment de sa diffusion à la télé. Il a fallu que Peter Jackson précise que non, bon, c'était un gros canular.
Il n'y avait peut-être pas Wikipédia, donc...
Voilà, pour vérifier. Donc Forgotten Silver, un film que je recommande, qui est aussi un ovni dans la filmographie de Jackson, puisque c'est le seul film qui a cette forme de documentaire. Bon, c'est un docu-fiction, mais on est dans le documentaire. Voilà, donc cette erreur est réparée. On a parlé un petit peu de Forgotten Silver. Et je reviens à ma chronologie. Donc après le succès mondial de sa trilogie, Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson peut enfin mettre en chantier son rêve de toujours, faire un remake du King Kong de Cooper et Schotzack. Et c'est à nouveau un déluge d'aventures et d'effets spéciaux à couper le souffle qui s'abat sur la planète en 2005, vu que maintenant, avec le succès de la trilogie, les portes hollywoodiennes sont grandes ouvertes et les financements également hollywoodiens sont disponibles pour Peter Jackson. Mais bon, après, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un peu difficile de faire aussi bien, et son King Kong a, à mon avis, un petit goût d'artificiel, même s'il y a quelques scènes assez impressionnantes, principalement au niveau des effets spéciaux.
Hein.
Ouais, c'est encore une preuve du talent des personnes qui travaillent pour Weta et qui ont d'ailleurs travaillé récemment sur Avatar. C'est vraiment des gens qui, que ce soit dans des prothèses, des accessoires, du maquillage ou que ce soit dans des effets digitales, s'en sortent particulièrement bien. Donc finalement, 5 ans après King Kong et en ayant produit entre-temps l'excellent District 9 de Neil Blomkamp, sur lequel Weta a d'ailleurs travaillé, eh bien Peter Jackson fait son retour à la réalisation avec Lovely Bones, qui sort aujourd'hui et qui marque une nouvelle rupture dans la filmographie du bonhomme. Donc avec cette adaptation d'un roman d'Alice Sebold, il revient à un genre qu'il avait déjà exploré avec Créatures Célestes, le drame fantastique. Donc il délaisse pour un temps les budgets pharaoniques de ses précédents projets et il nous propose cette fois un film plus intime et une nouvelle preuve de sa polyvalence. Donc en nous racontant l'histoire d'une jeune adolescente violée et assassinée qui observe le monde des vivants depuis l'au-delà, il revient à quelque chose de très sombre et quelque chose de versé dans une certaine poésie macabre. Deux caractéristiques qui ne sont pas vraiment compatibles avec un énorme battage médiatique. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu beaucoup parler de ce film avant sa sortie. Mais bon, je pense qu'on peut faire confiance à Peter Jackson pour nous offrir encore une fois un film particulièrement intéressant. De toute façon, je pense qu'on vous en reparlera très bientôt.
Alors Peter Jackson, est-ce qu'il apparaît dans ses films ? Parce qu'il semblerait que oui.
Tout à fait. Dans quasiment tous ses films, il fait des caméos hitchcockiens. Alors dans Bad Taste, c'est carrément, il tient deux rôles principaux. Un extraterrestre et un des hommes qui s'opposent aux extraterrestres. Il y a peut-être que Meet the Feebles où c'est des marionnettes et dans lequel il n'apparaît pas, mais peut-être qu'il endosse un costume de marionnette. Mais même dans Le Seigneur des Anneaux, voilà, il y a des petits caméos, là, très discrets. Dans le premier, on le voit en train de croquer une carotte dans un village. Dans le troisième, c'est un des soldats qui jette des choses sur les orques. Et c'est vrai qu'on retrouve toujours ce principe du caméo. Je ne sais pas si c'est un hommage à Hitchcock ou si c'est un délire du réalisateur. Voilà. Et dans Forgotten Silver, c'est carrément lui qui raconte l'histoire.
Ouais. Voilà, donc bien c'était le gros morceau hein, sur Peter Jackson. Effectivement, on aurait pu parler aussi de ses productions, des films qu'il produit. Il est un peu producteur exécutif, c'est ce que je vois. Il a touché plein de métiers, il a été monteur sur ses films aussi, maquilleur sur Bad Taste.
Oui, c'est lui qui faisait quasiment tous les effets spéciaux. Il a fondé Weta Workshop, donc il avait quand même une connaissance approfondie du métier des effets spéciaux. C'est un touche-à-tout, c'est un mec assez génial. Qui joue dans la cour des grands maintenant, qui a rejoint les Lucas, les Spielberg, Cameron, etc. Et qui peut s'enorgueillir d'avoir créé, peut-être il n'y a que Lucas qui a fait ça, ou il y en aurait d'autres à trouver, mais en tout cas, Lucas c'est un bon exemple, mais un univers qui a séduit toute la planète et qui a marqué vraiment les esprits. Enfin, on compte plus les produits dérivés des Seigneurs des Anneaux, que ce soit les accessoires en vente, etc.
La différence que Lucas, c'est lui qui a vraiment créé Star Wars, alors que là, il s'est servi de Tolkien, Peter Jackson.
C'est vrai.
Malgré tout.
C'est vrai, mais il a donné vraiment cette identité visuelle à l'histoire de Tolkien et c'est vrai que les illustrations d'Alan Lee, par exemple, dont je parlais un petit peu, Alan Lee, il a illustré les romans de Tolkien, en particulier Le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées dans les films de Peter Jackson, de ses illustrations. Et c'est des choses qu'on trouve moins souvent dans les réseaux de produits dérivés, les illustrations d'Alan Lee, qui sont souvent des magnifiques aquarelles. On les trouve moins que des grands posters de Aragorn ou des petites épées comme les baguettes magiques d'Harry Potter, etc. Mais principalement, il a créé une sorte de réseau de fans absolus de son travail, comme Lucas avec Star Wars.
Voilà, donc on va peut-être passer aux événements. T'as préparé quelque chose ou pas? Je ne sais pas, on n'en a pas parlé.
Ouais.
Donc on va faire vite. Un film malgré tout de Sherif Bega. Et ils se sont tus, court-métrage de Khaled Benessa. Donc c'est en suivi de débat en présence de Khaled Benessa, acteur. Ce sera ce jeudi 11 février à 20h et c'est au Diagonal. Une avant-première, celle de Roberto Castone, j'imagine, avec son film Under. Séance suivie du débat donc en présence du réalisateur et du collectif contre l'homophobie, et c'est aussi du côté du cinéma Diagonal, donc ce mardi 16 février à 20h. Voilà, c'est à peu près tout. C'est moins important, moins indigeste que la semaine dernière finalement.
Tout à fait.
Voilà,
il y a pas mal de sorties par contre. Oui. Je pense que vous pouvez sans hésitation, pour les fans de zombies, aller voir La Horde. Sachant qu'Yannick Dahan, c'est quand même un ancien du magazine Mad Movies, donc il sait de quoi il parle avec son film. Et puis le Peter Jackson, bien sûr, je pense, le Marc Recha, pourquoi pas. Voilà, il y a pas mal de choses à voir.
La semaine prochaine, interview prévue de Tony Gatliff, qui sortira aussi son dernier film, Liberté. Et puis de Merzak Alouache avec Araga, Les Brûleurs. Donc deux interviews plutôt qu'une, puisque aujourd'hui c'était seulement Marc Recha. Voilà, en revanche, je n'aurai aucune présence physique dans ce studio, mais toi, Martin, tu seras là avec Boris. Hein.
Tout à fait.
C'était Cinérama, merci de nous avoir suivis et donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Évidemment, on remercie Julia à la technique et puis ce qu'on écoutera à la fin du générique aujourd'hui, c'est François Truffaut avec L'homme qui aimait la femme.
Moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement.
Cinérama.
Puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18.
D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites la 12. Sans rancune.